pas d'inquiétude à avoir, ni pour les autres patients, ni pour le personnel, ni même pour les riverains et les habitants.
Le maire de Bordeaux se veut rassurant après l'annonce d'un cas de coronavirus chinois dans sa ville. Nous entendrons aussi la ministre de la Santé.
Des centaines de milliers de manifestants dans les rues hier partout en France contre la réforme des retraites, mais le gouvernement reste très serein pour faire passer son projet.
Michel Fourniret avait fait des repérages, puis enlevé Estelle Mouzin en 2003. C'est ce qu'a dit hier son ex-femme Monique Olivier à la juge, selon son avocat.
On a progressé sur la piste Fourniret plus en 6 heures qu'en 10 ans. Lorsque Monique Olivier dit qu'Estelle Mouzin a le profil du beau petit sujet, selon la formule de Michel Fourniret, ça ne doit pas être pris à la légère.
Et puis le FC Metz à la pointe de la technologie. Le club de football veut utiliser la reconnaissance faciale pour détecter les interdits de stade qui essayent tout de même d'assister au match.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a donc en France 3 patients atteints du coronavirus chinois. Au moins 2 d'entre eux s'étaient rendus en Chine. Les patients se trouvent à Paris, hôpital Bichat, et à Bordeaux, au CHU Pellegrin. Bordeaux, où s'est rendu notre correspondant Stéphane Place.
Pour éviter tout contact et tout risque d'une transmission du coronavirus, c'est dans un service bien spécifique de cette imposante structure hospitalière, qui se trouve à quelques minutes de l'hypercentre de Bordeaux, qu'est soigné ce patient de 48 ans. Jeudi soir, c'est d'abord dans les locaux de SOS Médecins que cet homme a été pris en charge. Consultation classique pour de la fièvre et de la toux, mais très vite, ce quadragénaire explique qu'il rentre d'un voyage de quelques jours en Chine, qu'il est bien passé par Wuhan. Il est alors transféré à l'hôpital et placé en chambre d'isolement. Président du conseil de surveillance du CHU, Nicolas Florian est le maire de Bordeaux.
C'est un milieu très confiné. Il y a un service dédié à ça, avec toutes les sécurités requises dans ce style de maladie. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ni pour les autres patients, ni pour le personnel, ni même pour les riverains et les habitants. Et puis, on est en train de retracer tout le circuit depuis son arrivée jusqu'à son hospitalisation du patient qui est un Bordelais d'origine chinoise et recenser toutes les personnes qu'il a pu croiser. Il y a déjà une dizaine de personnes qui sont signalées, donc les tests sont en train d'être réalisés.
Ce patient de 48 ans, hospitalisé ici au CHU de Bordeaux, est soigné par le professeur Malvy, éminent spécialiste des maladies infectieuses à haut risque, à la tête d'une équipe rodée, entraînée pour faire face à ce type de cas. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Le foyer du virus, je vous le rappelle, se trouve dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. 56 millions d'habitants de toute cette grande région sont désormais concernés par le confinement. Des mesures de dépistage sont ordonnées dans les trains, les bus, les avions chinois des lignes intérieures. Le pays recense 1287 personnes atteintes par le virus et déjà 41 morts.
Et en France, la ministre de la Santé Agnès Buzyn affiche un certain pragmatisme dans la gestion de cette crise.
Il est probable que nous aurons d'autres cas. Ce qui compte pour les autorités françaises, c'est de les repérer le plus vite possible. Il faut traiter une épidémie comme on traite un incendie. Très vite repérer la source, trouver les personnes avec qui le patient a été en contact, d'aller les voir et de leur donner les consignes, notamment de rester chez eux et d'éviter tout contact. Je rappelle que pour les voyageurs qui rentrent de Chine, il est important de se surveiller et au moindre signe respiratoire ou si on a de la fièvre, il ne faut pas aller aux urgences, il ne faut pas appeler un médecin, il faut appeler le centre 15 qui vient chercher les gens à domicile, les emmène en hospitalisation, ce qui nous permet de mettre les gens à l'isolement, de faire les tests. Si les tests sont positifs, ils sont gardés sous surveillance. Si les tests sont négatifs ou montrent qu'il s'agit d'une grippe, la personne ressort.
La ministre de la Santé au micro européen de Théo Manval. Madame Buzyn promet par ailleurs de communiquer chaque jour sur l'épidémie et les cas en cours pour éviter toute propagation de rumeurs absurdes sur les réseaux sociaux.
En Irak, 4 humanitaires de l'association SOS Chrétiens d'Orient sont portés disparus depuis lundi soir, parmi lesquels 3 Français. Ils étaient à Bagdad, notamment pour des formalités administratives. L'ONG redoute un enlèvement.
Revenons à l'actualité politico-sociale. Une nouvelle journée de manifestation est d'ores et déjà prévue mercredi prochain, dans 4 jours, donc toujours contre la réforme des retraites.
Il y avait hier 249 000 personnes dans les rues contre la réforme des retraites, des comptes du ministère de l'Intérieur. 1 300 000 selon la CGT. Pas de quoi affoler le gouvernement, en tout cas, c'est ce que nous explique Jean-Rémy Baudot.
Il n'y a pas un bureau dans les ministères sans une télévision branchée sur une chaîne d'infos. Hier encore, les membres du gouvernement ont observé les cortèges, écouté les chants, lu les slogans. Pour autant, les chiffres des manifestants ne bousculent pas l'équilibre actuel. Selon eux, il n'y avait pas la masse qui fait qu'on devrait s'inquiéter, glisse un conseiller du Premier ministre, avant d'ajouter, taquin, c'est rien pour une manif retraite. Quelques heures après la présentation du projet de loi de réforme au Conseil des ministres, l'exécutif reste déterminé à poursuivre. Le gouvernement, bien conscient que les opposants au texte ne vont pas pour autant désarmer, la réforme sera sur les bancs de l'Assemblée à la mi-février. Il y aura évidemment le jeu de l'opposition, mais on avance sereinement, maintient un proche d'Édouard Philippe. Une sérénité qui pourrait être troublée. Hier soir, le Conseil d'État a rendu un avis regrettant de ne pas avoir eu assez de temps pour étudier la réforme et affirmant ne pas pouvoir garantir la sécurité juridique du texte, ouvrant ainsi la voie à d'éventuels recours.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
La suite de ce journal dans un court instant. On a plus avancé en 6 heures qu'en 10 ans. C'est ce que dit l'avocate de Monique Olivier hier. L'ex-épouse de l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret, l'a accusé une nouvelle fois de l'enlèvement et de l'assassinat de la jeune Estelle Mouzin.
Europe 1, il est 8h06. Juste.
Europe 1.
Vos informations reprennent avec François Geffrier et Bernard Poiret.
François, on progresse. On progresse vers un peu plus de vérité dans l'affaire Estelle Mouzin, cette petite fille de 9 ans qui a disparu en 2003.
Oui, car face au juge hier, Monique Olivier a dit qu'elle était convaincue que son ex-mari, Michel Fourniret, avait tué la petite fille. Elle a même évoqué de possibles repérages quelques jours avant sa disparition. Alain Acco.
Après des heures de discussion, Monique Olivier a fini par livrer le fond de sa pensée. Elle n'a pas de preuves, mais elle est convaincue que Michel Fourniret a tué Estelle Mouzin. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'absence d'alibi. Le jour de la disparition de la jeune fille, c'est elle qui, à la demande de son ex-mari, a passé le coup de téléphone qui le dédouanait. Et puis surtout, c'est nouveau, elle se souvient que dans les jours ou les semaines qui précèdent, il était parti en repérage et en était revenu en disant avoir repéré un beau petit sujet. Pour l'avocat Richard Delgenès, qui a dû déployer des trésors de patience pour convaincre sa cliente de parler, ses déclarations marquent un tournant.
Là, aujourd'hui, je pense qu'on a progressé sur la piste Fourniret plus en 6 heures qu'en 10 ans. Il ne faut pas oublier que si Monique Olivier a des convictions, ce sont les convictions de Monique Olivier qui a été complice de Michel Fourniret, qui a partagé sa vie. Et lorsque Monique Olivier dit qu'Estelle Mouzin a le profil du beau petit sujet selon la formule de Michel Fourniret, ça ne doit pas être pris à la légère. C'est quelque chose de très important.
Très important, mais qu'il faut essayer de confirmer en trouvant des témoins de ces repérages. La juge d'instruction a d'ores et déjà prévu de réentendre Monique Olivier prochainement.
Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1.
Et puis cette question également dans ce journal et dans l'actualité, la reconnaissance faciale va-t-elle sortir des films de science-fiction pour s'installer dans les caméras des stades de football? En tout cas, le FC Metz y songe très sérieusement.
Et je vous rassure Bernard, il ne s'agit pas de dénoncer ceux qui vont acheter 3 hot dogs de suite à la buvette, mais bien de repérer les interdits de stade. Arthur Mbaché.
Voilà le projet. Soir de match à Saint-Symphorien. Les caméras du stade filment les gens, comme c'est le cas aujourd'hui partout en Ligue 1. Et, nouveauté, pour repérer dans la foule un éventuel interdit de stade, un logiciel qui analyse les visages. Le scénario fait causer à la brasserie du stade la serveuse Micheline, le cuistot Germain.
Celui qui va au match, il va au match. Hein. Bon, s'il va avec sa maîtresse, tant pis pour lui, là, qu'elle a fait marcher derrière et puis c'est tout.
Moi, je suis pas d'accord. Là, où sont où les droits de l'homme là-dedans? Vous vous rendez pas compte, on va venir comment en Chine? Tout le monde est fou, hein? C'est rentré dans la vie privée des gens.
Enfin, moi, pour la sécurité du club, dans tous les clubs, ils devraient faire ça. Il y aurait moins de problèmes. Voilà.
Le programme assure, la directrice générale du FC Metz, Hélène Schrub, ne pourra pas identifier les gens qui n'ont rien à se reprocher.
C'est pas en fait un système, c'est là où il ne faut pas rentrer dans un délire paranoïaque Big Brother. Le logiciel, il fonctionne sur de la comparaison par rapport à une base de données existante. Et la base de données ne sera alimentée que par des gens interdits de stade.
Déploiement du système espéré à moyen terme, dit la directrice, qui précise qu'aucun test n'a été mené pour l'instant un soir de match au stade. Metz, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Et à 8h11, c'est toute l'actualité sportive avec François Geffrier.
Eh bien, ma foi, François, nous allons rester dans le football, en Ligue 1. Avec un match nul, hier soir très nul.
Partout entre Nice et Rennes. Nice remonte provisoirement à la 10e place, Rennes reste 3e. Quant au 2e du championnat, c'est toujours Marseille. L'OM qui reçoit Angers cet après-midi et qui tente de faire bonne figure alors que Dimitri Payet est suspendu et qu'il y a eu comme une crise entre le président Jacques-Henri Hérault et l'entraîneur André Villas-Boas. Selon ce dernier, tout s'est arrangé entre eux.
On a parlé, on a essayé de calmer un peu les choses. Le plus important pour nous, et moi et le président, c'est le futur de l'OM. Le futur de l'OM est le plus important pour les supporters. On a calmé un peu les choses, on va, je suis sûr, améliorer notre communication pour que ce type de questions ne passe pas une autre fois. Et il nous a rassurés sur l'aspect sportif de l'importance de Andoni, qu'il a bien dit, qui était le grand architecte de cette équipe et de cette mercato, qui n'a pas été le cas les saisons passées. Et ça, c'est important pour moi. On a clarifié les choses et je pense que tout est tranquille.
André Villas-Boas avec Stéphane Frangy, OM Angers, c'est à 17h30.
Un peu plus tard, dans le multiplex d'Europe 1, vous pourrez suivre 5 matchs à partir de 20h. Brest-Amiens, Monaco-Strasbourg, Montpellier-Dijon, Reims, Metz et Saint-Étienne-Nîmes.
On reste dans le foot, mais de l'autre côté de la Manche. Quelles conséquences peut avoir le Brexit, effectif dans quelques jours, le 31 janvier, alors qu'on est en fin de mercato ? Réponse de l'avocat spécialisé Thierry Grandturco.
Aujourd'hui, s'il ne devait pas y avoir d'évolution de la législation au niveau britannique, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne rendrait les transferts, on va dire, des joueurs français vers le championnat anglais beaucoup plus difficile parce qu'il passerait d'un statut de liberté de circulation à un statut contraint par l'obtention d'un visa. Maintenant, j'imagine mal le Royaume-Uni ne pas adapter, si vous voulez, sa législation pour permettre aux joueurs étrangers de continuer à avoir accès à la Première Ligue.
Maître Grandturco avec Hortense Leblanc pour Europe 1.
Et l'actualité sportive la plus chaude, celle de cette nuit qui nous vient des antipodes, c'est bien sûr l'Open de tennis d'Australie.
Gaël Monfils, 10e joueur mondial et dernier français en compétition, s'est imposé 7-6, 6-4, 6-3 face au Letton Ernest Gulbis, qui signifie qu'il est qualifié pour les huitièmes de finale.
Les huitièmes, absolument. Et puis c'est la période des vœux, y compris dans le sport.
Dernier en date à s'y coller, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, alors que nous sommes à 6 mois des JO de Tokyo. Il espère déjà une délégation tricolore très médaillée cet été.
Tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que le sport français soit le meilleur possible et le plus haut en termes de nombre de médailles à Tokyo. Tous les acteurs sont en ordre de marche pour faire en sorte que ça cartonne et qu'on tire aussi des enseignements de cette Olympiade de Tokyo pour vraiment être le meilleur possible à Paris. On verra comment on peut être encore meilleur pour Paris 2024.
Tony Estanguet au micro européen de Corinne Boulou.
Merci beaucoup, c'était le journal de 8h présenté par François Geffrier qui revient tout à l'heure.